Caroline Brouet, cette semaine avec...
François Crémieux, directeur d'hôpital, marseillais depuis peu, parisien pendant longtemps et avec quelques voyages ces dernières années.
Cinquième épisode, un certain état d'esprit. Bonsoir, bonjour, François Crémieux.
Bonsoir et bonjour.
J'aimerais pour cette dernière émission de notre série que vous nous parliez de deux figures qui ont beaucoup compté pour vous, Chris Marker et Georges Semprin, et d'une revue avec laquelle vous collaborez depuis une trentaine d'années, la revue Esprit. Vous en êtes membre du comité de rédaction aujourd'hui. Peut-être commençons par Chris Marker parce que nous l'avons évoqué dans des émissions précédentes. Chris Marker, cinéaste, pas seulement cinéaste, c'est-à-dire cinéaste, réalisateur d'essais cinématographiques, grands films connus, La Jetée, Le Joli Mai, Le Fond de l'air est rouge, Chat perché, mais bien d'autres. Il a fait une multitude de films, photographe, écrivain, scénariste, etc. Dans une tribune au Monde, vous avez écrit qu'il était un cinéaste observateur avisé de son siècle. Vous l'avez rencontré en 1995, puisque vous étiez face à sa caméra pour témoigner de votre expérience de casque bleu. Peut-être déjà pouvez-vous commencer en nous racontant comment vous l'avez rencontré, comment s'est passée cette rencontre avec lui.
Le hasard d'une rencontre, puisque initialement, nous ne devions pas nous rencontrer. J'avais normalement rendez-vous à peu près ce jour-là et à la même heure avec un de ses amis, Théo Robichet, qui était lui aussi cinéaste, vidéaste, qui avait passé du temps à Sarajevo. Et Théo Robichet était à l'époque sur l'idée que la Bosnie, telle qu'elle avait existé, risquait de disparaître. On est fin 94, début 95, et qu'il est donc important de recueillir l'ensemble des témoignages qui peuvent parler de la Bosnie telle qu'elle est à ce moment-là. Et donc l'intention initiale de Théo Robichet était de m'interviewer à des fins d'archives, interviewer un soldat, casque bleu, retour de Bosnie, pour archiver son propos et contribuer à une sorte de grande collection de témoignages sur la Bosnie des années 90. Et puis, pour une raison dont je ne me souviens plus, Théo Robichet n'était pas disponible ce jour-là, il m'a demandé si cela me posait difficulté, que ce soit Chris Marker qui fasse cet entretien à des fins d'archivage et non pas lui. Et je dois reconnaître à posteriori que je ne connaissais pas Chris Marker, je n'avais donc soit rien vu de lui, soit en tout cas pas associé ce que j'avais pu voir à l'époque et son nom. Et donc j'ai répondu oui, probablement un peu nonchalamment. Et donc c'est ce hasard-là qui m'a conduit à rencontrer Chris Marker pour la première fois chez lui, près de la place Gambetta. Et on s'est rencontrés pas très longtemps, ça a dû durer à peu près 45 minutes pour une prise de vue qui a dû durer 43 minutes. Donc je pense qu'il y a eu une minute d'introduction, une minute pour se dire au revoir ou à peine plus. Et puis en fait, au-delà de la collection, Chris Marker a décidé d'en faire ce petit film qui a vécu un peu sa vie et qui a circulé, je parle du film, dans quelques festivals et qui a fait parler à la fois de la Bosnie et de l'enjeu du témoignage. Et puis ensuite, on est resté en contact avec Chris de manière assez régulière, échangeant sur plutôt sur ces questions-là, c'est-à-dire sur les questions qui nous avaient amené à nous rencontrer, et en l'occurrence, ses engagements, les enjeux de l'engagement politique, la situation de l'Europe au moment où on en parlait ensemble, et puis ses souvenirs à lui, effectivement, d'observateur avisé de son temps. Donc voilà l'histoire de la rencontre, et puis ensuite, les quelques semaines passées ensemble au Kosovo et d'autres échanges.
Pour le film Un maire au Kosovo, notamment. Est-ce que vous parliez cinéma ou images avec lui? Parce que vous avez quand même un truc avec les images où vous avez monté avec le journaliste Jean-Michel Frodon un ciné-club à Paris sur des questions médecine et soins, un peu plus tard, bien sûr. Vous filmiez, vous nous l'avez raconté, des interviews de médecins au Kosovo. Donc, il y a quand même quelque chose avec les images en vous. Est-ce que vous en parliez avec Chris Marker ou est-ce que c'est lui qui vous a donné le goût des images?
Non, on en a parlé un peu, plus lui qui m'en parlait que l'inverse, vous l'imaginez bien. Mais non, on a parlé d'images, plus sur ce qu'était l'utilité ou l'usage de l'image face au réel et sur les enjeux que l'image portait dans la manière de raconter les choses ou de les rapporter ou de les décrire. La Bosnie était un sujet qui se prêtait excellemment à la question de l'interrogation sur le sens des images. Elles avaient déjà été, comme avant et comme plus tard, manipulées dans tous les sens et par tous les acteurs. Et Chris Marker avait dans son atelier, en permanence de nombreux écrans allumés avec plusieurs magnétoscopes à l'époque et ne cessait d'enregistrer des bouts de ceci ou des bouts de cela pour ensuite jouer sur la question de l'image. Et plusieurs de ces films reviennent sur cette question de est-ce que ce que l'on me montre est effectivement ce que je vois, est-ce que ce que je vois change, est-ce que quand il le raconte dans un de ses films et quand il filme un cavalier aux Jeux Olympiques d'Helsinki, il ne sait pas à l'époque qu'il est en train de filmer un des putschistes de Pinochet, et donc ensuite, et donc cet aller-retour permanent entre qui je filme et est-ce que celui que je filme sait que je le filme ou me voit ou autre, est une des interrogations qu'il a eues dans toute une série de ses films. Et donc, oui, on a eu l'occasion de parler de cette question-là, et il m'avait incité, je sais pas ce qu'il faut dire, mais à continuer à filmer et à recueillir les témoignages tels que j'avais commencé à le faire. Et puis, ça fait probablement partie des conseils que j'ai eu tort de ne pas suivre plus longtemps. Mais je l'ai fait un peu et pas plus.
Et est-ce que vous êtes restés proches l'un et l'autre depuis la trilogie des Balkans?
Alors, la trilogie des Balkans, c'était après le décès de Chris Marker. Mais on est restés proches l'un et l'autre à peu près jusqu'à la fin.
Enfin, la trilogie des Balkans, c'est les trois films qui ont été réunis en coffret DVD, mais les films ont été faits dans les années 2000.
On a effectivement continué à échanger ensemble. Après, le troisième film, le premier, c'était Le 20h dans les camps, le deuxième, Casque bleu, le troisième, Un maire au Kosovo. Et donc, effectivement, après 2001 et après Un maire au Kosovo, on est resté en lien très fort et on a continué à discuter ensemble sur les événements du moment. Je me souviens de longues discussions autour de Barack Obama, par exemple, qui était un des sujets du moment.
À l'occasion de la rétrospective qui lui a été consacrée par la Cinémathèque française en 2018, la revue Esprit, on va y venir de toute façon, mais la revue Esprit a consacré un dossier sur Chris Marker, mais avec un angle précis qui était les engagements de Chris Marker. Je me souviens que dans le dossier, il était écrit, parmi ses engagements, l'irrévérence esthétique, la lucidité politique et la responsabilité morale. Qu'est-ce que vous ajouteriez, François Crémieux? De quel ordre furent ces engagements pour vous?
Non, ceux-là me conviennent assez bien pour décrire ce qu'ont été les engagements de Chris Marker. Moi, ce qui me marque le plus sur les engagements de Chris Marker, c'est leur constance, qu'il n'est pas si facile d'avoir, notamment sur ce morceau-là de siècle. Je trouve que d'avoir eu une constance dans ses engagements depuis une fin d'adolescence, juste avant-guerre, un engagement pendant la guerre, et puis ensuite cette longue période qui va de l'après-guerre à la fin du siècle, on peut trouver évident que d'avoir eu une constance dans ses engagements. Je trouve que c'est finalement, et avec le recul, pas si facile que ça, et que certains s'y sont parfois un peu perdus. Et donc je trouve que ce qui caractérise le plus Chris Marker, c'est la continuité au bon et au joli sens du terme. C'est une capacité à constamment défendre à la fois une esthétique de la pensée, une esthétique de l'image en l'occurrence, puisque c'était beaucoup ça son métier, une esthétique de l'écriture, malgré les vicissitudes auxquelles le siècle a confronté. Et cette partie-là du siècle, encore une fois, de la montée du fascisme dans les années 30 à la résurgence du fascisme en ex-Yougoslavie dans les années 90 à 2000, je trouve une période de siècle particulière et qui a sans doute dû confronter beaucoup de ces acteurs-là à la question de la constance dans l'engagement.
Chose qu'il partage avec l'autre homme qui était Georges Samprin. Pour vous, important aussi, c'est-à-dire cette génération forgée par la guerre. On va venir à cette génération, mais d'abord parlons de Georges Samprin, écrivain, homme politique, espagnol, militant communiste, combattant du franquisme, résistant, déporté, qui fut ministre de la Culture, dont on célèbre le centenaire en 2023, année où nous enregistrons ces AWANU. Georges Samprin, vous l'avez d'abord découvert par un livre, L'écriture ou la vie, en 1994.
Absolument. Moi, j'ai découvert Georges Samprin avec L'écriture ou la vie, à une période où le personnage Samprin était personnage public, notamment au détour de ses prises de position sur la question yougoslave. Et j'avais été très marqué par L'écriture ou la vie, d'abord par l'écriture. Je trouve que c'est un beau livre, pour dire les choses simplement. Je trouve d'autre part que cette capacité que Georges Champrin a eue tout au long de la plupart de ses livres, de ses allers-retours permanents qui font un peu une manière de penser autour de la question de la mémoire du présent, du passé et de l'avenir, qui est d'utiliser la littérature pour faire ses allers-retours permanents et qu'il a fait dès son premier livre avec Le Grand Voyage et qu'il a continué à la fois peut-être comme technique mais aussi comme forme stylistique. Voilà, c'est un livre qui m'a marqué d'abord pour cette raison-là. Sa forme et son et la beauté de son écriture. C'est également un livre qui m'avait marqué par le fait que dès L'Écriture ou la vie, et puis ensuite en lisant et en relisant Georges Champrin, pratiquement au détour de chaque page, on a envie de tirer la ficelle, et on a envie de tirer la ficelle d'un livre, d'un poème, d'une musique, d'une histoire, d'un événement. Et je trouve que Georges Champrin a cette capacité un peu exceptionnelle à vous donner envie d'aller constamment tirer la ficelle ou suivre le chemin au détour d'une page. Et en plus, quand on lit ses livres et quand on suit sa littérature du Grand Voyage ou à ses derniers ouvrages, il y a en plus cette résurgence de situations, de personnages, de moments. Voilà, donc c'est à la fois un homme, une vie et une littérature qui m'a beaucoup marqué et beaucoup inspiré.
Il y a un lien d'ailleurs entre, comme un trio, vous formez comme un trio, Chris Marker, Georges Champrin et vous-même, puisque il a été la voix off, Georges Champrin, d'Un maire au Kosovo et la voix française de Bayram Recepi. Et puis, vous lui avez succédé, à Georges Champrin toujours, comme président de l'association Paris-Sarajevo-Europe.
C'est un immense honneur que de me mettre quelque part dans ce triangle, et probablement un honneur un peu démesuré à l'aune de ce qu'ont été ces deux hommes. Il y a eu cette soirée, effectivement, dans un studio d'enregistrement, je crois dans le 18e ou le 19e arrondissement, soirée organisée par Chris Marker pour organiser la prise de son autour d'Un maire au Kosovo, et où donc il fallait que tous les trois... Chris Marker pour sa propre voix, moi pour la mienne sur les quelques questions sur lesquelles j'intervenais en interviewant Bayram Recepi, et puis d'autre part pour faire la voix française de Bayram Recepi, il y a eu cette longue soirée, j'ai le souvenir que ça a dû durer de 18h à minuit, quelque chose comme ça, et on était tous les trois avec un technicien enfermé dans un studio, et ça a été pour moi un moment que je pourrais vous raconter pendant des heures, parce que il y avait à la fois l'expérience elle-même, je suis pas habitué moi à ce monde-là de la technique, de l'enregistrement, de la prise de son, et puis il y avait ces deux messieurs qui se renvoyaient des pics ou des phrases ou des références à des moments que je n'avais évidemment pas connus, et l'anecdote que Chris Marker appelait Georges Champrin Federico du nom duquel il l'appelait quand il était dans la résistance Parti communiste espagnol et dans la clandestinité.
Federico Sanchez.
Et donc voilà, ça a été pour moi voilà de nouveau un moment très bref, quelques heures, mais qui m'a fortement marqué. Et donc il y a effectivement eu quelques liens, mais j'ai aussi dit combien j'avais eu le sentiment d'être d'avoir côtoyé ces hommes et globalement leur génération à la toute fin d'une longue comète, queue de comète d'engagement et de relations entre eux, et que évidemment que le cœur de leur vie, de leurs engagements, etc., était plutôt de la guerre, dans l'après-guerre, dans ce qu'ils ont pu faire, écrire les uns et les autres. Quand je dis les uns et les autres, c'est Georges Champrin et Chris Marker, mais c'est aussi Alain Resnais, c'est Florence Malraux, c'est Costa Gavras, c'est Yves Montand, c'est Simone Signoret, c'est toute cette bande-là, qui est une bande avec des relations très fortes et qui a fait à la fois, évidemment, du cinéma, de la musique, mais aussi des manifestations, des voyages, du musical, etc. Et je trouve que cette génération née une vingtaine d'années avant la guerre, ils avaient plutôt 18-19 ans en 1940, donc assez âgés au moment de 68, qu'on a eu l'occasion d'évoquer, donc plutôt les grands frères ou les grandes sœurs de 68 qui avaient à l'époque une quarantaine d'années, qui ensuite ont vécu la chute du mur de Berlin à l'aune des combats qu'ils avaient menés ou auxquels ils avaient participé quand ils étaient plus jeunes, pour qui la question des totalitarismes se posait de manière extrêmement forte, et il se trouve que d'avoir eu, moi, 20 ans dans les années 90, m'a peut-être ramené à une question plus proche de celle qui se posait à eux sur la question des totalitarismes et donc sur la question du mur et de la Yougoslavie, que n'avait été confrontée à cette question la génération de 68, qui peut-être s'était sentie plus protégée de ce risque-là. Et je trouve de nouveau, pour parler de la situation en 2023, que la question du totalitarisme aujourd'hui en Europe avec la guerre en Ukraine se repose de manière extrêmement forte. Et donc ma connivence intellectuelle ou ma relation avec cette littérature ou avec le cinéma de Chris Marker ou autre, elle est peut-être aussi liée à ça, au fait qu'ils ont été dans des moments d'histoire qui peut-être me parlaient plus, et donc leurs engagements avec, que d'autres.
Vous écrivez « Voilà une génération dont l'approche du monde et la colonne vertébrale politique auront été non pas le regard qu'elle porte sur elle-même, mais les peuples, non pas le périmètre national, mais les grandes luttes de libération. »
Ouais, je crois aussi que c'est une caractéristique de cette génération-là. Et parlant de cette génération-là, c'est aussi une caractéristique de la vie de la revue Esprit, qui par ailleurs se cale à peu près sur cette même période. C'est une revue qui est née en 1932. Et effectivement, par volonté, mais plus encore à mon avis par nécessité, cette génération s'est confrontée à la question plus du monde qu'à la question de son quotidien ou de sa proximité immédiate.
Mais plus que votre génération, vous diriez ?
En tout cas, je crois plus que la génération suivante, pour reparler de la génération de 68. Et c'est une génération qui, à cause, encore une fois, de la montée du fascisme, des enjeux européens de l'époque, de la guerre, de la décolonisation, et parfois avec des erreurs faites par les uns ou par les autres, sur la relation avec Cuba, avec certaines armées de libération, etc. Il n'empêche que dans tout ça, leur approche politique était une approche très mondialisée et très à l'échelle de la planète. Et je trouve que peut-être la génération qui leur a succédé, avec lesquels je crois avoir eu moins d'atomes crochus, de relations fortes, est une génération qui a peut-être été plus recroquevillée et peut-être un peu dans l'insouciance de ce qui allait se passer à la fin du siècle. Et on a finalement, et c'est un peu ce que m'écrivait Chris Marker dans les années 95-2000, quand on évoquait le fait d'essayer de faire quelque chose ensemble autour de ce qui se passait dans les Balkans, l'idée qu'il y avait quand même un grand retour de l'histoire et que pour sa génération, ça sonnait quand même comme étant un grand échec. Pour la mienne, peut-être moins comme un échec que comme un défi sur la période qu'elle est s'ouvrir.
Je vais confronter deux extraits de textes hein, que Chris Marker vous avez écrit et dont vous vous souvenez, c'était plutôt sous la forme d'une lettre, je crois, en 2000, et puis vous, dans une tribune dans Le Monde en mars 2022. Si je commence par la lettre de Chris Marker, il dit « Toute l'histoire Kosovo-Serbie m'a passablement démoli sur un point précis, qu'on le veuille ou non, il vient un âge des bilans, et cette guerre était le condensé de tous les échecs, de tous les mensonges et de tous les pièges auxquels ma génération a eu affaire, avec en supplément cette fois l'impression que le film était reparti à l'envers. » Et vous, vous écrivez, dans une tribune au Monde en mars 2022, « L'invasion de l'Ukraine par Poutine pourrait bien être aujourd'hui, pour ma génération, un autre condensé de tous les échecs et cette fois encore donner l'impression que le film est reparti à l'envers. » Anesthésié par la chute du mur de Berlin, ma génération a commis l'erreur de penser que la démocratie n'était plus un combat.
Ben ouais, je pense. Enfin, il y a effectivement dans ces deux phrases et dans ces deux moments et dans ces deux enjeux probablement ce qui pour moi fait le lien entre sa génération, celle de Chris Marker ou celle de leur génération, Chris Marker et Georges Samprin et la mienne. Et je pense effectivement que ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Et je ne sais pas si c'est un condensé de tous les défis qu'il y a devant nous ou de toutes les erreurs du passé, mais en tout cas un enjeu qui, je le crains, est bien au-delà de la manière dont on le perçoit aujourd'hui. Je veux dire par là que ce qui se passe en Ukraine n'est pas simplement une question de savoir qui, dans quelques mois ou dans quelques semaines ou que sais-je, de la Russie ou de l'Ukraine s'asseoira le premier à la table de négociation et comment cette crise-là va se terminer. J'espère et je pense qu'elle va se terminer, mais elle est incroyablement révélatrice d'enjeux qui, je crois, sont bien au-delà du seul sujet posé par la guerre en Ukraine et qui renvoient à des questions dont on a beaucoup parlé, et notamment de notre rapport à la démocratie ou au totalitarisme, de notre rapport à la question de savoir si on construit le vivre ensemble des nations autour d'histoires qui sont parfois trop simple pour pouvoir embarquer tout le monde. C'était par exemple le cas de l'ex-Yougoslavie. Les pays ex-Yougoslaves n'étaient plus en capacité d'asseoir leur avenir et leur vivre ensemble sur une histoire qui n'embarquait plus tout le monde. Et de même que dans les mouvements, des comparaisons lointaines, mais dans les mouvements antiracistes des années 90, une des questions, c'est le vivre ensemble avec des générations de jeunes issus ou arrivés avec l'immigration, et où on se pose la question de savoir quel est notre vivre ensemble. Alors à l'époque, et vous allez voir le lien, il y a dans les mouvements français de l'époque l'invention du black blanc beurre, et on imagine que c'est avec ce slogan-là qu'on va réussir à refaire sens et à se reconstruire un avenir commun. Avec l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, tout ça est un peu lointain, mais il y a la question de la construction européenne et du fait que d'où que pouvaient venir, et avec leurs différences, la Slovénie, la Croatie, le Kosovo ou la Serbie, il y avait une perspective de construction européenne et d'avenir. Et finalement, la question que nous pose la guerre en Ukraine, c'est un peu de tout ça. Alors évidemment, de manière paroxystique et avec Poutine et une dictature très puissante derrière, mais qui est finalement quel est notre enjeu de vivre ensemble, et comment est-ce que l'on peut, à l'échelle du continent et à l'échelle du monde, et dans un contexte de crise écologique et autres, mais se réinventer une capacité à affronter ces défis-là. Et je trouve que ça fait de nouveau le lien, y compris dans mon métier au quotidien, entre des questions extrêmement pragmatiques et individuelles sur le fonctionnement d'un hôpital, que ce soit à Marseille ou ailleurs, mais également avec des questions plus philosophiques ou plus générales sur comment est-ce qu'on organise ce vivre ensemble autour de grandes valeurs. Et donc, le point commun avec Georges Samprin, Chris Marker, c'est en tout cas d'avoir eu intérêt et plaisir à s'interroger sur ces questions-là, à défaut soit d'avoir trouvé les solutions, soit même d'avoir toujours été d'accord sur tout.
Vous pensez que l'Ukraine pourrait être aujourd'hui pour les jeunes ce que la Bosnie a été pour vous ?
Non, je crois que les choses se posent forcément de manière différente. Peut-être d'abord que ce qui se passe en Ukraine est plus grave, bien plus grave encore que ce qui s'est passé en Bosnie, l'avenir dira. Je pense que l'Ukraine est en fait un des maillons de cette histoire-là. J'ai souvent pensé que une des différences majeures entre notre perception de l'histoire et celle de beaucoup d'amis serbes ou kosovars ou albanais ou autres, c'était que nous avons, nous, été vraiment éduqués autour de l'idée qu'on tournait les pages des livres d'histoire, et qu'une fois une page tournée, on rentrait dans une autre séquence et qu'on passait à autre chose. Et on a eu à cœur de s'enseigner les uns les autres cette idée-là. Il y a eu avant la Première Guerre mondiale et après, une petite continuité, mais il y a eu avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois qu'on est en train de redécouvrir que l'histoire est une continuité, et que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui est évidemment très lié à ce qui s'est passé au temps de Gorbatchev et de la perestroïka, situation très liée à la question de la chute du mur, elle-même très liée à la question de la guerre froide, et que finalement, de proche en proche, on peut finir par remonter loin dans l'histoire. Et donc, à ce titre-là, je pense que l'une des erreurs à ne pas faire serait de regarder l'histoire, et a fortiori le présent et donc l'avenir, comme étant une série de moments déconnectés les uns des autres. Et donc, je ne crois pas que l'Ukraine soit plus ou moins un moment historique pour des plus jeunes que moi aujourd'hui. Et puis, je pense aussi qu'ils sont confrontés, cette génération et ces générations sont confrontées à d'autres défis, notamment celui du réchauffement climatique, qui est voilà, un autre des sujets qui était relativement peu présent lorsque j'avais moins 20 ans et qui se pose aujourd'hui de manière beaucoup plus importante.
Vous parliez, François Crémieux, du point commun ou des points communs entre ces deux hommes dont nous parlons dans cette émission, Chris Marker et Georges Samprin. Il en est un autre qui, à nouveau, vous réunit tous les trois d'ailleurs, c'est que l'un et l'autre écrivaient, ont écrit dans la revue Esprit. Alors beaucoup, beaucoup pour Chris Marker, qui a écrit une centaine d'articles pour la revue Esprit. Et puis Georges Samprin, après son père, qui était correspondant d'Esprit en Espagne entre 1933-1937, Georges Samprin aussi a écrit, comme vous, donc, vous êtes mis à écrire, je crois, à collaborer avec la revue Esprit à votre retour de Bosnie, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui vous a rapproché de cette revue ? Quel est l'esprit d'Esprit qui vous plaît autant ?
Et bien, paradoxalement, je me suis rapproché de cette revue ni par l'écriture, ni par la lecture, mais par la rencontre avec le groupe d'Esprit. À l'époque, Olivier Mongin, Antoine Garapon, Joël Ubrecht, qui était plus jeune, mais qui s'intéressait beaucoup aux questions d'ex-Yougoslavie, Véronique Naumgrap et Marc-Olivier Padis. Enfin, je vais pas les citer tous, mais tous ceux qui animaient la revue dans les années 90 sont des gens dont je me suis rapproché au travers plutôt de manifestations, de mouvements, de rencontres, de réunions, etc., sur la question à la fois de Sarajevo et de la Yougoslavie, mais plus largement se posait la question, qui était une question historique pour la revue, du rapport au totalitarisme et de ce que ça signifiait à ce moment-là et dans les années 90. Et puis, de ces rencontres-là, je me suis effectivement plus intéressé à l'histoire de la revue, toujours plutôt sous l'angle de qui était ce collectif qui avait animé cette revue depuis 1932. Il y a peu de revues intellectuelles françaises qui, comme ça, passent de génération en génération avec des directeurs de la publication qui se succèdent les uns les autres. Au contraire même, on est plutôt un pays dans lequel les revues sont souvent portées par une personne et puis disparaissent avec le départ de cette personnalité. Là, c'est pas le cas. Et donc, la revue Esprit, c'est d'abord pour moi ce collectif qui continue à vivre aujourd'hui, avec lequel j'ai un immense plaisir à travailler et à discuter, une génération qui a succédé à ceux que je viens de vous citer, avec Anne Dugin, Anne-Lorraine Bujon, qui sont maintenant les deux piliers, rédactrices et rédactrices en chef de la revue. Et donc c'est d'abord ce collectif-là. Et puis il se trouve que c'est aussi pour partie le lien qu'a pu avoir la famille Semprin avec la revue Esprit, qui était à la fois pour le père de Georges Semprin d'être correspondant de la revue en Espagne, à Madrid, mais ensuite d'être physiquement accueilli par des intellectuels engagés. Jean-Marie Soutou, qui s'occupe à ce moment-là d'accueillir la famille Semprin à Biarritz lorsqu'il quitte l'Espagne clandestinement. Et puis ensuite, le père de Semprin a continué à écrire pour la revue depuis La Haye. Et Georges Semprin en parle beaucoup, enfin en parle à plusieurs moments dans ses livres, du fait que le groupe Esprit était pas simplement un groupe d'intellectuels qui échangeaient des articles ou qui se lisaient les uns les autres. C'était des gens qui se connaissaient, qui se réunissaient et qui organisaient une solidarité et quand il le fallait, se protégeaient les uns les autres. Et puis c'est dans l'histoire de la revue un fil conducteur permanent, encore récemment, avec des intellectuels russes ou ukrainiens. Et donc moi c'est au travers de ces engagements-là. Et puis ensuite est venu le plaisir à la fois de lire la revue et d'y contribuer. Et me voilà depuis une grande vingtaine d'années à participer à cette aventure collective.
Dans votre article sur Semprin, dans la revue Esprit, vous posez une question que j'ai envie de vous poser à nouveau, de vous retourner. À quelles idées fondamentales faut-il s'accrocher pour tenir une vie d'engagement dans la cohérence de la pensée ?
De nouveau, j'aimerais avoir la réponse que Georges Semprin apportait à ça, mais je vais pas savoir y répondre comme ça à brûle pour point, mais en tout cas, et c'est pas seulement une manière de pas répondre, c'est aussi une conviction. Je pense que la première des conditions, c'est de ne jamais s'arrêter de se poser cette question-là. C'est-à-dire de s'assurer encore une fois, et je crois qu'ils ont dû, eux, le faire à de multiples reprises tout au long de cette deuxième moitié du XXe siècle. Mais c'est de ne cesser de s'interroger sur ce que doit être la continuité de ces engagements par rapport aux événements auxquels on est confronté. Sur ma petite tranche de vie sur laquelle on est revenu au cours de ces quelques émissions, les enjeux ont été de nature extrêmement différente selon qu'on était même au Kosovo ou à Sarajevo ou à Bihać. Tout ça peut paraître être des moments très proches les uns des autres, 94, 99, 2001, c'est presque au même endroit et c'est presque dans la même géographie. Et pourtant, quand on est à vivre ces moments-là, on n'est pas dans les mêmes responsabilités, on n'est pas au même poste d'observation. Et donc je trouve que la meilleure manière de répondre à cette question est de ne jamais cesser de se la poser.
Comme le dit Jean-Michel Frodon à votre propos, il y a du romantisme en vous ?
S'il le dit.
Merci, François Grémieux, merci de nous avoir accordé ce temps précieux qui est le vôtre.
Un immense merci à vous.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Stéphane Foulon, réalisation Asia Khalid, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.